Vendredi dernier, alors que tout le monde s'apprêtait à partir en week-end et faisait déjà chauffer les barbecues et que les marchés étaient en pleine euphorie, que Trump rentrait du Moyen-Orient avec des Boeing 747 remplis de cash et que le S&P 500 et ses cousins sortaient d'une semaine de folie, à cet instant très précis, Moody's a balancé une bombe. Il downgrade la dette américaine et l'Amérique qui est en passe de redevenir Great Again perd son dernier AAA. L'Amérique passe officiellement dans la catégorie bon élève, mais reste quand même un petit peu bavard au fond de la classe. Alors ce matin, les futurs se font décalquer, les indices devraient ouvrir en baisse de 1% et pourtant, je suis certain que ça n'est qu'un feu de paille. Un feu de paille parce qu'en 2025, les agences de notation arrivent après leur âge pour t'expliquer que t'es mouillé et que ça fait 30 ans que ça dure. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce downgrade n'est qu'un détail dans un film qu'on a déjà vu. Sauf que cette fois, dans le casting, il y a Trump, le budget qui explose, les banques qui reprennent des risques et on commence à faire des paris avec un gros hippo à côté d'une station-service. Ce matin, on va voir ensemble pourquoi tout le monde s'en fout de Moody's et pourquoi c'est peut-être pas une bonne nouvelle de déréguler les banques parce que c'est comme laisser un labrador tout seul dans une pièce avec un sac plein de croquettes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 mai et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Vendredi soir, pendant que la planète finance s'ouvrait une bière pour fêter une semaine boursière euphorique, Moody's a donc décidé de casser l'ambiance. La note de la dette américaine passe de AAA à AA1. Un petit cran en dessous de la perfection, pas de panique. Les États-Unis restent solides, juste un petit peu moins solides, en théorie. Ce qui est le plus étonnant, en réalité, c'est pas tant le downgrade, c'est plutôt le fait qu'il restait encore un AAA quelque part. À croire que chez Moody's, on a passé 10 ans à faire une sieste prolongée au Mexique, à siroter des cocktails à base de tequila. Alors pourquoi maintenant? Eh bien parce que visiblement, chez Moody's, de nouveau, on vient de se rendre compte que les États-Unis dépensent plus qu'ils ne gagnent depuis 2009. Et que si Trump arrive à faire passer sa réforme fiscale XXL, on va gentiment rajouter 4000 milliards de déficit à l'addition sur les 10 prochaines années. Le tout sans plan d'assainissement, sans stratégie sérieuse, juste des casquettes MAGA à vendre, des discours enflammés et des deals entre deux chameaux et deux émirs quelque part dans le désert. Moody's justifie sa décision en expliquant que le niveau de charge de la dette devient intenable par rapport aux standards des autres pays AAA. Traduction. Les États-Unis vont avoir de plus en plus de mal à payer leurs intérêts sans vendre un rein ou potentiellement les deux. Et c'est à cet instant très précis que je me lève et que je dis stop! Non, parce qu'avant de hurler à la mort et d'appeler le 911 pour qu'ils viennent nous sauver, la plupart des gens oublient quand même que les agences de notation ne prédisent rien. Elles arrivent après la bataille, relisent le rapport d'autopsie et annoncent que le patient est mort. Ces gars-là sont des chroniqueurs du présent et pas des devins du futur. Et à ce petit jeu-là, leur taux de précision est équivalent à celui d'un sniper aveugle et complètement bourré sur une cible mobile à 1400 mètres par grand vent. Et maintenant, devinez qui a réagi à tout ça? Trump, évidemment, avec sa délicatesse habituelle. Il a sous-entendu que chez Moody's, on lui en veut personnellement et donc c'est pas de sa faute. Mais il y a aussi Scott Bessent, son nouveau secrétaire au trésor, ex-hedge fund manager qui sait à peu près de quoi il parle quand on cause finance, downgrade, upgrade et rating à deux balles. Bessent est donc monté au créneau dimanche matin sur NBC pour nous expliquer que les agences de notation sont des indicateurs retardés. Bam! Et il a pas tort, il a pas tort. Ça fait des années qu'on se dit qu'un downgrade d'agence de rating, c'est parfois un excellent signal d'achat. Genre, on a touché le fond, tout le monde panique, et maintenant ça remonte. Un peu comme appeler les pompiers une fois que la maison est réduite en cendres pour qu'ils viennent nous dire que ça a vraiment brûlé. On a donc passé le week-end à attendre l'ouverture des futurs de dimanche soir, histoire de voir si le downgrade de Moody's allait gâcher la fête des indices américains qui sont en pleine euphorie depuis que Trump a tendu la main aux Chinois et déverrouiller le problème des droits de douane. Oui, parce que pendant que Moody's faisait ses calculs, la semaine dernière, on retiendra quand même que le S&P 500 a terminé sa semaine et 6,5% plus haut que la clôture du 2 avril, jour maudit, où nous avions bêtement pensé qu'on allait tous mourir. Le SOX, lui, est 14% plus haut et le Nvidia est 23% plus haut. Donc oui, je vous le confirme, dimanche soir, les futurs ont ouvert au fond du trou. Là, tout de suite, On est en baisse de 1%, grosso modo, sur le S&P 500, et ça sent donc la claque à l'ouverture. Mais en même temps, qu'y a-t-il de nouveau dans cette histoire? Est-ce que cette baisse de notes est une surprise? Absolument pas. Est-ce que ça change quelque chose à court terme? Probablement pas non plus. Et pourtant, c'est le genre de signal faible qu'on ne devrait pas balayer d'un revers de main. Parce que derrière ce coup de tampon, il y a une réalité qui pue le gasoil. Dette record, déficit hors de contrôle, incertitude fiscale permanente, et même si Trump a ses torts, et Dieu sait qu'il en a, c'est pas non plus lui tout seul qui a mis l'Amérique dans ce foutoir budgétaire. Il est juste celui qui fait tourner la sono à fond alors que le plancher du Titanic commence à prendre l'eau. Mais bon, encore une fois, les agences de rating font ce qu'elles font toujours. Elles crient au loup quand le loup est déjà assis dans le salon avec un mojito depuis plusieurs heures. Et les marchés ont donc terminé la semaine dernière en feu d'artifice. Le S&P 500 remonte, le Nasdaq galope et les taureaux galopent à Wall Street comme si on venait de découvrir un gisement de pétrole sous la Maison Blanche. Tout le monde sourit, tout le monde y croit, et pendant que ça rigole fort dans les open space climatisés, une petite question commence à poindre à l'horizon. Jusqu'où ça peut tenir? Ah, parce que les chiffres, eux, ils racontent une autre histoire, une histoire un petit peu différente. Le S&P 500, par exemple, a effacé toute la raclée de début d'année, et maintenant, on est en hausse de 1,3% pour 2025. Enfin, ça, c'était à la clôture de vendredi soir. Le Dow Jones et le Nasdaq suivent dans le même mouvement, et pendant ce temps, le DAX allemand nous a fait un plus 19% depuis le 1er janvier, quasiment en ligne droite. On dirait que 2025, c'est pas Make America Great Again, c'est plutôt Rammstein Uber Alles. Les résultats du premier trimestre sont étonnamment costauds. De nombre 2% des boîtes du S&P 500 ont déjà publié. 78% ont fait mieux sur les attentes des profits, et 62% on fait mieux sur les ventes. Comme quoi, avant que les surtaxes ne fassent vraiment mal, on profite encore un petit peu de la fin du repas. Et surtout, surtout, il reste 85 jours avant la fin du moratoire entre Pékin et Washington. En clair, les marchés vivent sur l'espoir d'un deal. Comme s'il suffisait d'y croire très fort pour que ça se produise. Et l'inflation dans tout ça, ben justement, elle semble se tasser, du moins en apparence. Hein, c'est ce qui donne un petit peu d'air au marché obligataire, pendant que Jerome Powell, lui, reste plus figé qu'une statue de cire sous l'ex-2000. Mais il y a un hic. En fait, non, il y en a plusieurs de hic. Tout d'abord, la bourse devient franchement pas cadeau. Relativement cher. Le PI du S&P 500, il y a un mois, c'était 18. Aujourd'hui, c'est 21,5. On a donc pris 20% de valorisation à la louche, en ligne droite, alors que dans le même temps, eh bien, les attentes de profit pour 2025, elles ont baissé. Elles, oui, baissé. On est passé de $271 par action à 263. En gros, on paye plus cher pour moins de résultats. Et pendant que tout le monde joue au poker sur les marchés, personne ne voit rien venir. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les boîtes elles-mêmes. Dans les conf-calls, c'est un festival de « Ah, on n'a aucune visibilité, oh, c'est le brouillard, oh, on pilote à l'aveugle !» Et là, tu sens qu'on est dans un épisode de Bourse et Mystère, la nouvelle série disponible sur Prime Video. Mais attendez, c'est pas fini. Les taux longs, eux, ils montent. Le 10 ans US au-dessus de 4,5%, le 30 ans qui flirte avec les 5%, et puis le mot « tarif » est devenu le nouveau mot à la mode, puisque sur 500 sociétés du S&P 500, 411 l'ont prononcé pendant leur earning calls. Record absolu, signe que derrière les PowerPoints rassurants, tout le monde commence à transpirer à cause de cette guerre commerciale qui pèse comme une enclume sur la visibilité des marchés. Mais la palme revient quand même à la disparition pure et simple de la récession dans l'esprit collectif. Il y a deux mois, tout le monde en parlait comme l'Armageddon possible, et aujourd'hui, hop, un séjour à Genève, et plus personne n'y croit. Yardeni lui-même a lâché l'autre jour, quand il y a une récession, les pays plongent sous les 10. Là, aujourd'hui, on est à 21,5. Donc, pas du tout de crash qui est pricé à l'horizon. Et tout le monde a hoché la tête comme s'il venait de livrer l'étape de la loi, sauf que les valorisations sont étirées comme un élastique, la croissance des profits ralentit, les taux montent, le consommateur US est au bord de l'apnée, comme l'a montré l'indice de confiance de l'Université du Michigan vendredi dernier, le deuxième plus mauvais score de l'histoire, et même Walmart, le roi de la marge microscopique, commence à parler de hausse des prix. Et cette semaine, on attend les chiffres de Home Depot, de Lowe's et de Target, et s'ils commencent à tousser eux aussi, on saura que le feu couve déjà sous la moquette. En résumé, les marchés s'envolent sur des espoirs, des deals qui ne sont pas encore signés, des promesses de désescalade, des chiffres moins pires que prévu, mais les fondations sont quand même un tout petit peu branlantes. On dirait une maison de luxe bâtie sur une dalle en carton, et tout le monde danse sur le pont, mais personne n'a été vérifié s'il y avait de l'eau dans la cale. Alors deux options, soit on continue à faire la fête en espérant que la sono tienne jusqu'au matin, soit on commence à se dire qu'un petit reality check, ça ferait pas de mal. Et dans un environnement comme celui-là, il suffirait d'une seule petite étincelle
pour tout faire péter. Mais franchement, je ne suis pas sûr que cette étincelle soit celle de Moody's, j'en doute fort. Ce matin en Asie, l'ouverture a eu la même gueule qu'un lundi matin de janvier sous la pluie. Les futurs américains sont plombés à moins 1%, on le sait, et tout le monde regarde le sol en silence en espérant que ça se passe bien. En Chine, les stats du jour, c'est un peu comme un gâteau d'anniversaire ou tofu, une production industrielle qui surprend à la hausse, mais des ventes de détail qui grament et des investissements qui sentent le sapin. Résultat, les indices chinois baissent mollement, comme s'ils avaient oublié comment faire un vrai sell-off. Bref, tout ça pour vous dire que ce matin, c'est ambiance feutrée et incertitude maximale. Du côté news du matin, c'est calme. Enfin, calme, c'est une façon de parler parce que tout le monde digère encore le downgrade de Moody's et pendant que les commentateurs radotent sur le AA1, un autre sujet bien plus croustillant commence à émerger et ça il faut en parler, c'est la nouvelle idée de génie de l'administration Trump. Titre du film, dérégulons comme en 2006, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oui, les autorités s'apprêtent donc à saboter tranquillement la fameuse Supplementary Leverage Ratio, alias SLR. Cette règle, qui était mise en place après la crise des subprimes, était censée éviter que les banques jouent au casino avec l'argent des clients. Mais voilà, visiblement, on a la mémoire courte. Mais en revanche, les banques, elles ont pas oublié. Elles râlent depuis 10 ans que cette règle les empêche de s'endetter comme des goresses sous prétexte qu'elles ont trop de bons du trésor. Traduction, on veut refaire 2007, mais sans le mauvais karma. Et Trump, lui, il écoute, parce que Trump, il adore faire plaisir à ses bons clients. Alors, plus de dettes, plus de trading, moins de régulation, plus de risques, on dirait le programme de printemps d'une banque d'affaires en mal de bonus pour l'année prochaine. Et l'idée derrière cette manœuvre, tout simplement faire baisser artificiellement le coût de la dette US. Comment? En autorisant les banques à racheter encore plus de treasuries sans devoir provisionner autant que ça. Plus de demandes, plus de facilité à emprunter, c'est la magie de la dérégulation au service du déficit abyssal. Mais attention, ça revient quand même à filer les clés de la cave à vin à un sommelier alcoolique. Parce que voilà, on vit une époque où les marchés sont plus nerveux qu'un trader sous Red Bull et où les fondamentaux sont aussi stables qu'un labrador de 8 semaines lâché dans un entrepôt de chez Royal Canin. Et c'est là que ça devient savoureux. On supprime les garde-fous, on aligne les bonus, on ouvre la voie aux produits structurés les plus douteux, comme des CDO sur la dette des clients Tesla avec leasing en souffrance, couplés à des futurs sur la météo à Verbier l'année prochaine. On rigole. Mais on a déjà vu pire. Si, je vous assure. Et on sait tous comment ce genre d'histoire se termine. Conclusion de tout ça, c'est simple et inquiétant à la fois. Les marchés montent et sont solides. Les agences notent avec 6 mois de retard, et là je suis gentil. Et Trump dérégule plus vite que son ombre. Tout ça, on l'a déjà vu. En général, ça finit toujours pareil. Ça brille, ça chauffe, et puis ça finit par péter un jour ou l'autre. Mais bon. Pour l'instant, tant que le Nasdaq s'envole, qui va s'embêter à lire les petites lignes en bas du contrat? Pas les banques, pas les agences, et visiblement, pas les investisseurs non plus. Allez, sur ce, bonne chance à tous ce matin, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et de revenir demain pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux de la finance. Passez une excellente journée, et à demain! Bye bye!